ספר במדבר. לחכמים ספר, il l'appelle Chumash Hapkudim. C'est le Chumash dans lequel on a donné à chacun sa tâche. En fait, dans ce Sefer, il va y avoir deux dénombrements avec indication de ce que chacun avait à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des choses absolument fondamentales dans ce Sefer. Il y a les Meraglim, dans l'histoire des explorateurs, qui a changé complètement la situation, toute l'histoire juive, si vous voulez, changer avec les Meraglim. Si, normalement, on aurait dû entrer dans quelques jours, on devait être en Eretz Israël. Et à cause des Meraglim, tout a changé. On a pris 38 ans supplémentaires de promenade. On a eu toute la génération des adultes qui étaient sortis d'Égypte, qui avaient vécu la Matan Torah, enfin Kriyat Yamsouf, Matan Torah, etc. Tous ces gens-là sont tous morts, à l'exception de Caleb et de Yoshua. Pendant ces 40 ans, pendant lesquels les Bnei Israël ont tourné en rond dans le désert, pendant ce temps-là, en Eretz Kenaan, dans ce pays dans lequel les Bnei Israël allaient entrer, l'idolâtrie s'est installée encore mieux, profondément. C'est-à-dire que les problèmes qu'on aurait peut-être eus si on était entré tout de suite sont devenus beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles à gérer, parce qu'il y avait 40 ans de plus d'idolâtrie. Par ailleurs, la génération qui avait vécu des choses tellement extraordinaires, en étant adulte, et les hommes, cette génération a donc disparu. Alors, à part le fait que les femmes n'ayant pas disparu, on avait un problème démographique, ça veut dire un décalage complet. Toute une génération, en quelque sorte, une génération de femmes dont les maris sont morts. C'est difficile d'imaginer ce clan Israël avec une quantité de veuves. Mais c'est de ça Hazal n'ont pas l'air d'en parler beaucoup, donc je n'ai pas trouvé de source, mais on peut s'imaginer que c'est déséquilibrant complètement le clan d'Israël. Vous me direz, il ne semble pas, on n'en voit pas de traces. Alors, il y a un événement aussi important. Il y a beaucoup de choses, mais il y a encore une chose particulière, c'est qu'il y a quelque chose dans... Si vous voulez, quand vous regardez les Chamisha Chumshei Torah, bien entendu, la Torah, elle a été donnée au Bnei Israël à travers Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, le Sefer Bereshit, il ne l'a pas vécu, évidemment. Donc, il a reçu un Sefer. Il l'a reçu comme Sefer, comme un récit. Mais le reste du temps, Moshe Rabbeinu était un acteur, il participait à tout ce qui s'est passé dans Shemot, dans Vaikra, enfin ce qui est dit dans Vaikra, dans Amidbar, et dans Dvarim, c'est même lui qui parle. Mais il y a une exception, qui figure justement dans ce Sefer de Bamidbar, qui est ce qu'on appelle la paracha de Bilam, ou Balak. Parce que c'est une paracha tout à fait hors de l'ordinaire, parce que c'est une paracha dont les Bnei Israël n'avaient aucune idée. Ce sont des choses qui se sont discutées entre Goïm, quoi. Entre Bilam et Balak. Ça veut dire, il y allait là-bas de tout l'avenir du clan Israël, puisque l'intention de Bilam, Balak, c'était bien de faire disparaître le clan Israël. Les Bnei Israël ont été sauvés, et ensuite, Chazal disent que Moshe Rabbeinu Katav, Sifro, il a aussi, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la paracha de Bilam, mais pas parce qu'il l'a vécu. Parce qu'Hachem a dû lui souffler ce qu'il fallait écrire. Et tout ça, ça semble prendre, enfin, c'est fondamental, mais ce qu'on a retenu pour nommer le Sefer Bamidbar, pour le nommer Sefer Abkudim, c'est pas ça, c'est les fameux dénombrements avec indication de la charge de chacun. Donc ça a l'air d'être ça ce qui est fondamental. Les Bnei Israël, ici, ils vont être décrits, on va le voir. On va commencer, on va regarder. Nous, on appelle ça Bamidbar parce que c'est le premier mot significatif de cette paracha. Donc, la paracha et donc le Sefer portent aussi le même nom, comme Shemot, etc. Là, nous, on met l'accent dans le nom qu'on utilise, nous, couramment. C'est, on fait seulement référence au fait que tout va se dérouler dans le désert. Moshe Rabbeinu, Hachem parle à Moshe Rabbeinu, Bemidbar Sinai, Boel Moed. Il lui parle de Echad la Chodesh Hasheni, la Shana Hashenit, etc. Meretz Mitzrayim. On est la deuxième année après la sortie d'Égypte, et on est le deuxième mois, Iyar. Et il lui donne l'ordre. Sou et Rosh Koladat Bene Israël, le Mishpechotam, le Tavotam, le Mispar Shemot, Kol Zafar, le Goulotam. Il lui donne l'ordre de faire le décompte de tous les Bene Israël, d'après leur famille, les maisons paternelles. On va dénombrer les noms de tous les mâles. À partir de 20 ans, alors on peut dire que c'est à partir de 20 ans, c'est par référence à l'armée. Les Bnei Israël vont devoir conquérir Eretz Israël. À ce moment-là, ça allait se faire immédiatement, dans les jours qui venaient. Et il faudra les compter donc dans une optique militaire. Et alors le décompte va se faire, les gens vont passer devant Moshe et Aaron. Et passant devant Moshe et Aaron, c'était, si vous voulez, être vu par Moshe et Aaron, c'était en soi quasiment une bracha. C'était les gens, Moshe et Aaron avaient évidemment des regards bienveillant sur les Bnei Israël, et donc ça donnait de l'énergie à tout le monde en passé. C'était un décompte qui faisait que les gens étaient renforcés. Alors on sait bien que par ailleurs, dans la Torah, on n'est pas pour les décomptes, mais ici on peut dire c'est qu'on fait quelque chose presque de contradictoire, parce que vous vous souvenez, on en a déjà parlé un peu, quand on fait le compte des gens Si on veut les compter, on est obligé de faire abstraction de ce qu'ils sont. On ne peut pas additionner un toto avec un machin, d'accord ? Ça ne s'additionne pas. Si on oublie qui ils sont et qu'on voit simplement des êtres humains, éventuellement, en français on dirait de la chair à canon, parce qu'on les décompte pour aller faire la guerre. Alors là, on va penser, ils sont tous interchangeables. Parce que finalement, on va donner un chiffre, mais auquel on arrive seulement si on peut additionner, c'est qu'on a oublié toutes les différences qui font que normalement on ne peut pas les additionner. Vous vous souvenez, je vous ai déjà donné cet exemple, on ne peut pas dire le résultat de 2 pommes plus 3 poires. Ça ne donne rien. Parce que si vous voulez avoir quelque chose, vous êtes obligé d'oublier que c'est des pommes, oublier que c'est des poires, et considérer comme des fruits, vous pourriez dire j'ai 5 fruits. Mais si vous voulez garder la personnalité pomme et poire, il n'y a pas de résultat, on ne peut pas additionner. Donc on ne peut pas additionner deux juifs, chacun avec sa personnalité, ça ne s'additionne pas. Et pourtant, on va le faire ici. Alors d'ordinaire, on n'est pas pour les décomptes, mais ici c'est un peu spécial parce que en même temps qu'on va les compter, on va les compter par famille, avec leur nom, etc. Donc à chaque fois que les gens vont être là, on va faire presque comme si on faisait un double décompte. À la fois on les compte pour avoir le total, mais on les rattache à leur famille, donc quelque part à leur spécificité. Et donc en même temps, on met en évidence la spécificité de chacun. C'est peut-être pour ça que c'est permis, c'est sur l'ordre d'Hachem de toute façon. Mais ici on ne pose pas tellement le problème parce que on a respecté en quelque sorte leur spécificité. Alors on dit aussi les chefs de chaque tribu. Et ici le décompte est intéressant parce que on va commencer par compter avec Réhouven. C'est-à-dire on a l'impression qu'on a pris l'ordre de naissance des enfants de Yaakov. Réhouven, ensuite Shimon, Yehuda, etc. Donc on est parti pour faire un décompte en fonction, dans l'ordre, ce sera l'ordre de naissance. Ensuite, alors il y a tout le détail des... Donc, tout ça, pour l'instant, on va le sauter. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas décompter avec tout le monde les gens de la tribu de Lévi. Donc, comme c'est marqué dans le verset 47, premier chapitre, les Lévites n'ont pas été comptés et Hachem lui a dit à Moshe, effectivement tu ne compteras pas à la tribu de Lévi et tu n'en prendras pas le dénombrement parmi le dénombrement des Bnei Israël. Eux ils ont un rôle tout à fait particulier. Ils vont être alors c'est un autre aspect des choses, les Bnei Israël vont être amenés à circuler dans le désert, et comme vous le savez bien, le Mishkan, le tabernacle, va être à chaque fois qu'ils vont quitter un certain lieu, et on va démonter le Mishkan, le transporter, démonter en pièces détachées, et puis ensuite, sur place, on va le remonter. Donc maintenant, il y a les gens qui vont être préposés à transporter le Mishkan en pièces détachées, c'est les Levim. Mais quand on démonte le Mishkan, Alors, il y a un risque, si vous voulez. Alors, il faut aller tout à la fin de la paracha. Pasouk dit, donc c'est la hauteur du maftir, donc on est au chapitre 4 et au verset 18. Donc Hachem dit, enfin, Hachem dit à Moshe et à Aaron, Al tachritu et shevet mishpechot akehati mitoch alvim. Al tachritu, c'est la chaîne carette. D'accord? On leur dit, ne retranchez pas. Ça veut dire, veillez à ce qu'elle ne soit pas retranchée. Alors, c'est une famille, les descendants de Kahat. C'est une des familles des Lévim. Alors, c'est curieux parce qu'ils sont présentés, c'est marqué Et Shevet, c'est une tribu, mais Kehat, c'est pas une tribu. Mishpechot Akehati, les familles de Kehati. Donc, c'est une drôle de façon de les présenter, comme s'ils étaient une tribu par soi. Pour soi, alors qu'ils ne le sont pas, évidemment. Mais aussi les familles qui représentent. Pourquoi cela? Parce que les gens de la tribu de Kehat sont ceux qui vont transporter le Kodesh à Kodashim. Alors, Zot Asu, Lahem, voilà ce que vous allez faire pour eux. De telle sorte que vechayu veloyamutu begishtam et kodesh kodashim. Vous allez faire pour eux quelque chose qui va leur permettre de vivre et de ne pas mourir lorsqu'ils vont s'approcher, lorsqu'ils vont s'occuper du kodesh kodashim. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est Aaron uvanav yavou. Aaron et ses fils vont venir, les Kohanim vont venir. Vesamu otam ish ish alavodato. Et ils vont assigner, eux, chacun des membres de la famille de Kat à une tâche particulière dans ce transport. À la fois pour donc, l'avoda et le masao, le transport. Et velo yavou lirot kevala et akodesh vametu. Mais les gens de Kehat, ils ne viendront pas au démontage du Kodesh Akodashim. C'est Aaron et Banav qui vont démonter et qui vont ensuite les recouvrir avec les fameuses couvertures avec lesquelles on couvrait chaque chose. Et donc, eux, ils vont transporter des éléments constitutifs du Kodesh HaKodashim sans savoir exactement quelle tête ça avait. C'est les Kohanim qui vont faire le travail, et eux ne viennent qu'après, quand c'est déjà emballé. Donc, ils sont, par rapport à ça, ils seront des transporteurs et pas des emballeurs. Et pourquoi cela? Enfin, alors, si vous regardez un petit peu avant, c'est effectivement décrit. Alors, par exemple, je prends un exemple un peu quelconque ici. De façon générale, il est dit, vu la croix, ils prendront, je prends le verset Yudbet, le verset 12 de ce chapitre 4. Vilakru et kol klei hasharet, ils prendront tous les ustensiles de service. Asher yishartuvam bakodesh, qu'on utilisera dans le kodesh, pas dans le kodesh hakodashim, dans le kodesh. Venatnu el beged trelet, et on va le mettre dans un vêtement en trellette. On a cette couleur bleue, là. Les couvertures bleues, là. Le chissou otam, bemirse or tachash, et en plus, ça va être emballé avec une couverture qui sera en peau de ce fameux tachash qui est cet animal qui n'existait qu'à ce moment-là, pour sa peau. On a utilisé sa peau pour le Mishkan. Venatnu à la motte, et ils mettront ça sur des barres de transport. Et alors, ensuite, donc c'est déjà dit aussi plus bas que c'est Aaron et Banab et ses fils qui vont faire le travail. Et ensuite, on dit au verset 15, Vechila Aaron ou Banab le chasot ta kodesh. Aaron et Banab termineront de recouvrir le kodesh, dans l'emballage du kodesh. Vetkol klei hakodesh binsoa hamachane v'achechen yabou bnei kehat laset. Et ensuite les bnei kehat vont venir pour porter. Velo yigou el hakodesh v'metou. Là non plus, ils doivent pas toucher le kodesh, sinon ils mourraient. Ele masa bnei kehat v'ohel moed. Voilà ce que transporteront les bnei kehat. Ukudat Elazar ben Aaron Akohen, et ça sera dirigé par Elazar, le fils d'Aaron, Shemen Amaror, qu'on a transporté l'huile de la menorah, Ktoret les Asamim, le Ktoret, donc les parfums qui permettent de rapporter le Korban de la Ktoret en permanence, Minchat Atamil, les offrandes végétal qui accompagne le korban tamid, celui du matin et de l'après-midi, shemen amishra, l'huile d'onction, fekudat kol amishkan, kol asher bo bakodesh bekelat. Mais, encore une fois, il est dit très clairement, les gens de la tribu de Kéa, c'est ce qu'on a lu avant, eux, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas là, ils ne voient pas l'emballage. Pourquoi est-ce que on ne veut pas qu'ils voient l'emballage du Kodesh à Kodashim? Alors, c'est un problème qui existe, qui est un problème qui touche certaines fois aussi à la nudité, etc. Il est là. Tombez pas dans l'eau. Finalement, tout le Mishkan, y compris le Kodesh HaKodashim. Imaginez, le Kodesh HaKodashim, c'est un espace limité dans lequel il y a le Aaron, dans lequel le Kohen Gadol va entrer une seule fois dans l'année. Donc c'est un truc. Mais quand on le démonte, qu'est-ce que c'est? Quand on le démonte, ben, c'est des matériaux, c'est un peu de bois, un peu de tente, un peu de. Des fils, etc. C'est rien, quoi. Si on le quand on décompose les choses, même les choses qui ont, à la limite, qui sont belles, qui ont du charme, etc. Si on dit, bon, ben, finalement, un être humain aussi, on pourrait dire, ben, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'eau, un peu de graisse, un peu de poil. Voilà, on a fait l'inventaire d'un corps humain. Alors si on le réduit, le Kodesh HaKodashim, à cet inventaire, or il est réduit à l'inventaire, parce que on va le transporter, on va le décomposer, justement. Alors il ne fallait pas que les gens qui n'ont pas à le connaître, les gens de Kéat, ils vont, c'est pas de chez eux, ils ne sont pas des Kohanim. Donc c'est des Levim, ils n'ont pas à connaître les secrets de fabrication. Alors pourquoi Aaron et Banab ils peuvent? Parce que de toute manière, effectivement, les Kohanim, ils sont dans ce qu'on pourrait appeler la cuisine du Beth Amigdash. Bon, c'est eux, ils font la Shrita, ils vont recueillir le sang, transporter, faire des aspersions, etc. Il y a des moments où les Kohanim, à certains moments dans l'année, les Kohanim, ils pataugeaient dans le sang. Il y avait tellement de Shrita, il y avait beaucoup de Korbanot, Pessah, et donc ils pataugeaient, certains, ils en avaient jusqu'aux genoux. Mais bon, c'était comme ça, si vous voulez, il faut apprendre à regarder ces choses-là en se disant, c'est pas du sang, c'est du dame des Kodashim. C'est du sang des Kodashim, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, je supporte pas de voir le sang, donc je peux pas regarder la Mila. Mais le sang qui coule à la Mila, c'est pas du sang. C'est le sang de la Mila. C'est autre chose. C'est un sang de vie, justement, alors que le sang qui coule, c'est un sang de mort. C'était cela, tout le Inyan. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu a dû faire la Mila? Parce que, comme lui disait, Nimrod, il disait, mais les astrologues disent que vous avez la planète rouge, je ne sais pas, enfin quelque chose dans ton thème astral, donc tu es mort. Alors Hachem lui a dit, oui, c'est vrai, ils ont raison. Avraham, tu es mort, ça veut dire que tu n'auras pas de descendant, rien du tout. Mais Avraham, si tu changes, c'est-à-dire, Tseh Mistak Dinut Shelcha, sors de ton déterminisme astral, et à ce moment-là, tu vas pouvoir vivre. Et c'est la même chose quand Paro dit à Moshe Rabbeinu, vous voyez bien que Kiberaa, tu vois bien qu'il y a une planète. Il lui dit exactement la même chose. Et qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il refait la même chose qu'Abraham. Il refait la Mila, plus encore un autre travail, toujours avec le sang. Donc, combattre le sang de mort, avec quoi? Avec le sang de vie. C'est comme ça qu'on travaille. Donc eux, ils n'ont pas à le connaître, mais les Kohanim qui manipulent tout ça, ils manipulent la graisse, ils manipulent la viande, le sang, etc. Bon, ils sont dans le... On leur demande effectivement à ces Kohanim, c'est difficile, de prendre de la distance avec ce qu'ils manipulent. Bon, quand ils manipulent ces choses-là, c'est comme les gens qui vivent en abattoir en permanence, enfin très souvent, ben, finalement ça a un effet sur les gens, sur la mentalité, sur leur façon de regarder, ils voient sans arrêt, on tue, etc. C'est sûr que c'est impressionnant. Ça peut changer la vie, donc il faut apprendre, les Kohanim, ils devaient apprendre à ne pas considérer qu'ils sont dans un abattoir ou dans une boucherie. Et les gens de la tribu de Kehat, s'ils voyaient la décomposition, si vous voulez, du Mishkan, enfin du Kodesh HaKodashim, il n'y aurait plus de respect, il n'y aurait plus de... Vous voyez, cette espèce d'aura qu'il y a sur le Kodesh HaKodashim. Bon, c'est pour ça que c'est la mort. Si c'est carré, c'est-à-dire, on va les retrancher du clan Israël. Ils ne pourront plus jouer leur rôle. Ça veut dire. Donc, dans le décompte, chacun va avoir sa position. Là, on voit ce qu'il en est de cette tribu de Lévi. C'est pour ça que la tribu de Lévi n'est pas comptée avec les autres. Et ensuite, après avoir parlé de ça, justement de ce décompte là, Hachem dit à Moshe, c'est le deuxième chapitre, à Moshe et à Aaron, il leur dit, les Bnei Israël vont camper, chacun sous sa bannière, son drapeau, ils vont avoir des couleurs. Il y a un midrash qui dit que quand Akadosh Baruch Hu est descendu, quand il s'est manifesté au Sinaï, il était accompagné par des myriades d'anges. Et ces anges avaient des drapeaux. C'est la couleur. Dans le Zohar, on parle des couleurs, etc. Et les Bnei Israël, quand ils ont vu ça, ils disent, nous aussi, on veut les drapeaux. Alors, je me dis, vous allez avoir des drapeaux. Des Dgalim. Donc, il y avait des Dgalim, effectivement, sur... et ces dgalim avaient à la fois des couleurs et ils avaient quelque chose qui ressemble à une espèce de totem, quoi, si vous voulez. Vous avez un loup sur le drapeau de Binyamin, par exemple. C'est pour ça que les gens qui s'appellent, souvent les gens s'appellent Binyamin Zeev. Zeev, c'est le loup. Ils ont souvent et il y avait sur la bannière, le drapeau de Yehuda, un lion. C'est pour ça que les gens s'appellent Yehuda Arié ou Yehuda Leib. Leib, c'est la même chose. Leib ou Leib, c'est comme le lion, c'est Arié. En allemand ou en yiddish, le Maharal s'appelle Leib. Pardon, le drapeau, c'est l'idée de ce qu'on est arrivé. Oui, ça veut dire un drapeau, ça marque. Ici, il y a les gens qui sont caractérisés, qui se regroupent autour des valeurs, de la singularité, de la spécificité de cette tribu-là.
Ça veut dire que les animaux.
Ah, oui. Effectivement, il y a sur Naphtali, il y a la gazelle, tout le monde connaît parce que les postes israéliennes ont une gazelle. La gazelle, ça court vite. Bon, les postes israéliennes aujourd'hui, ils devraient mettre un escargot, mais bon, on n'a pas réussi à changer. Il y a des oppositions peut-être. Ouais. Alors, on a fait l'ordre, je vous ai fait remarquer l'ordre était dans le décompte, c'est en fonction de l'ordre de naissance des enfants de Yaakov. Mais ici, on nous parle du campement, et on va dire ceux qui vont camper en avant, c'est-à-dire à l'est. Ça sera le Yehuda. Alors, on nous dit qui est le chef de la tribu de Yehuda, c'est le fameux Narchon Ben Aminadab, c'est celui qui a sauté le premier, d'après une version, c'est lui qui a sauté le premier dans la Kriyat Yam Souf, c'est lui qui a sauté. Il y a une deuxième version, vous savez, dans laquelle on dit que les Bnei Israël ne voulaient pas sauter. Et lui, on l'a poussé. C'était lui le premier, mais pas à son corps défendant. Alors voilà, donc premièrement ça veut dire que le côté de référence, ça commence par l'est. Et alors c'est Yehuda qui sera à l'est, et puis on va tourner dans le sens est, sud, ouest, nord. On va aller dans ce sens-là. C'est le sens des aiguilles d'une montre, oui. Est, sud, ouest, nord. Alors, les Bnei Israël sont 12, il y a 12 tribus, et ils vont se répartir sur les 4 points cardinaux, et donc on aura 4 fois 3 tribus, 4 groupes de 3 tribus. Une principale, et la principale elle sera flanquée des deux côtés de 2 autres tribus. Par exemple, Yehuda, elle sera flanquée de Issachar et Zvulun. Alors, Yehuda, c'est la tribu royale. Issachar, c'est la tribu de ceux qui se consacrent uniquement à l'étude. Et ces gens qui se consacrent uniquement à l'étude, ils ont un deal avec la tribu de Zvulun. Zvulun, c'est un businessman. Qui va surtout, ça se passe avec des bateaux, etc. Et ils ont un deal que Zvulun partage les bénéfices de son business avec Issachar, et Issachar partage le mérite de son étude avec Zvulun. Donc si vous voulez, c'est comme si on a pris 2 tribus et se sont unifiées quasiment. Bon, on va se débrouiller. Ils se sont chacun fait son job, mais on met tout en commun. On met en commun le matériel et on met en commun le spirituel. Et eux sont donc, ça c'est l'accompagnement de la tribu qui est en tête, c'est la royauté et puis l'étude soutenue, l'étude et la parnassa soutenue par une étude possible parce qu'il y a ce deal entre les deux. Ensuite, donc c'est ce qui vous est dit là dans le deuxième chapitre au début. Et puis ensuite vient Degel Machne Reuven. Lui, il est Temana, il est au sud. On nous dit qui est le Nassi, qui est le prince de la tribu de Reuven, Elitsur Menchdeo. Et on nous dit combien ils sont. Et il est flanqué de Shimon d'un côté, dont le Nassi est Shlomiel Ben Shadai. Et le deuxième, c'est Gad. Donc on a Reuven au sud, Reuven et Shimon et Gad. Puis ensuite on tourne, on est à l'ouest. Alors à l'ouest, alors d'abord, avant d'arriver à l'ouest, c'est marqué au verset 17, Venas, alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle à la fois de l'organisation des Bnei Israël quand ils campent et aussi quand ils se déplacent. Ils ne vont pas se déplacer, ils vont camper autour du Mishkan, c'est pas, vous avez bien compris. Il y a le Mishkan au centre, après il va y avoir un anneau, si vous voulez, qui est dans les Kohanim, puis ensuite il y a le Vim. Et puis tout autour, un grand plus grand anneau qui contient toutes les tribus dont on est en train de parler. Maintenant, comment on fait quand on se déplace? Ils ne vont pas se déplacer comme ça. On va couper le cercle, si vous voulez. Et donc, on a dit tout de suite, la tribu de Yehuda, c'est elle qui va marcher en tête. Et ensuite, vient Reuven, qui est là. Donc, ceux qui étaient à l'est, on va partent en tête, ils sont suivis immédiatement de ceux qui étaient au sud, et après Venasa Oel Moed, ensuite il y a le Mishkan qui bouge, transporte le Mishkan avec le Machane Alvim, les Alvim qui sont autour, comme on dit Kasha Yachanu Kenisau Ish Aliadol Digle. Donc, il y a le Mishkan, puis ensuite on continue. Après, il y a Ephraim qui était à l'ouest. Elishama ben Amihud, c'est son patron, le chef. Et flanqué de Menaché et Binyamin. Alors, ce côté-là, le côté ouest, il est intéressant parce que, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est tout Yosef. Yosef et Binyamin et Menaché et Ephraim. C'est les enfants de Rachel, ça veut dire. Donc à l'ouest. Et on dit la Shrina, elle est à l'ouest. Et effectivement, le Misbéar, il sera sur le territoire de Binyamin. Et ensuite, le dernier, c'est la voiture balai, en quelque sorte, c'est Dan. C'est toujours lui qui est le dernier. Et évidemment, il y aura Asher et Naphtali qui seront qui vont compléter. Et donc, c'est eux les derniers à l'Acharona Isou le Diglé. Ensuite, on a compté séparément les Bnei Israël, les Levim, et maintenant il y a au troisième chapitre le décompte de la famille de Moshe et Aaron. Toldot Aaron ou Moshe. lorsqu'Hachem a parlé avec Moshe au Sinaï. Et voilà les noms des fils d'Aaron. Le Bechor, premier-né, c'était Nadab, ensuite Abihu, et Lazar, Itamar, les quatre fils d'Aaron. C'est les quatre qui ont été loin. Ça veut dire que quand les Bnei Israël, je suis à Revi, au début du chapitre 3, à la quatrième montée, on est dans la Midbar, hein. Les Kohanim, il n'y en avait pas beaucoup, hein, au départ. Il y avait Aaron et ses quatre fils, Aaron ou Banav. C'était ça. Les autres personnes n'étaient Kohen. Alors ensuite, quand ils ont eu des enfants, leurs enfants vont devenir Kohanim, avec une exception de quelqu'un qui va devenir Kohen exceptionnellement, c'est Pinchas. Pinchas, c'est bien un descendant d'Aaron, mais les descendants, la deuxième génération, n'a pas été loin comme Cohen. Mais lui, il est le seul qui est devenu Cohen. Il a eu une conduite qu'il a qualifiée comme Cohen. C'est un truc qui n'a jamais existé, à part ça. Ça n'existera jamais. C'est lui. Pinchas, Hachem a dit, je lui donne la Kehuna. Ça, on verra quand on arrivera à Pinchas. Alors, bon, voilà les quatre fils d'Aaron. Vous savez bien que Aaron a perdu deux de ses fils, Nadab et Abihu, au moment de l'inauguration du Mishkan, ce qu'ils ont apporté à ce moment-là, quelque chose qui ne leur avait pas été prescrit, ou pas de la façon dont c'était prescrit. Eux, ils n'avaient pas d'enfants. Ceux qui sont morts, certains disent que c'est aussi une partie de leur faute, ils n'avaient pas d'enfants, mais parce que dans le Midrash, on dit qu'ils ne trouvaient jamais de fille assez bien pour eux. Ils se prenaient pour... Donc avec qui on s'est marié? Personne n'était assez bien pour eux. C'est toujours un peu curieux, si vous voulez, d'un côté. Nadav et Abihu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, après la mort de Nadav et Abihu, il lui a dit, avec ce qu'Hachem avait annoncé, etc., je vois que Nadav et Abihu étaient plus grands que nous. Il dit, Nadab et Abihu sont plus grands que Moshe et Aaron. Personne n'était aussi grand que Moshe en nevoie, mais c'était plus adéquat, en tout cas pour diriger le clan d'Israël, que Moshe et Aaron. Et en même temps, on dit des choses... à la limite, c'est... À la fois, c'est très orgueilleux, c'est méprisable, je veux dire, cette attitude-là. Comment ces gens-là sont d'un côté qualifiés comme étant tout à fait adéquats pour diriger le clan d'Israël, etc. Bon, ils ont fait une faute, alors ça ne s'est pas fait, mais ça n'empêche qu'ils étaient au bon niveau. Et en même temps, on va les accuser de choses assez méprisables. Je veux dire. Si c'était les gens qui se sont mariés et n'ont pas d'enfants, ben ce n'est pas leur problème. Personne ne peut le garantir. Mais ne pas vouloir se marier parce qu'il n'y a pas une fille assez bien pour moi, pour eux, quoi. À part ça, Chazal disent qu'ils sont toujours les deux, mais chacun pensait nous, mais dans sa tête, pensait c'est moi qui serais le chef et pas mon frère. Vous savez, c'est toujours la même histoire dans un couple, ils discutent, ils disent ouais, bon, ben si jamais si jamais l'un de nous meurt, alors j'irai m'installer ailleurs. C'est un besoin comme ça. C'est...
Comment le niveau de grandeur, on va dire, avec ce centrage sur le même, qui
Mais c'est la question que tu viens de poser.
Oui.
Mais si je l'ai posée et que je n'ai pas donné de réponse, c'est que je n'ai pas de réponse.
De,
pardon, c'est quoi?
De sa femme.
Non, mais d'abord, il avait des enfants.
Oui.
D'abord, premièrement. Et deuxièmement, on a expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas. Eux, ils n'avaient pas ce problème.
Oui, mais justement, peut-être qu'il fallait rester, je veux dire, quelque part dans cette pureté, entre guillemets.
Mais non, ils n'avaient qu'à. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a eu ce problème. Aaron et Myriam n'avaient pas ce problème. Et personne n'a dit que, quand on dit qu'ils étaient plus grands que Moshe, c'est marqué « Lokam b'Israël ». Donc personne n'était aussi grand que Moshe en Nevoa. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est pas en Nevoa qu'ils étaient plus grands. Plus adéquats, ou tout à fait adéquats pour diriger le peuple d'Israël. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous pensait. D'une certaine manière, ça se présente, d'après ce qu'Hachem lui avait dit, ça semble comme ça. Mais n'empêche, ils sont quand même morts. C'est-à-dire, ils sont vivants. Ils ne vont pas jouer leur rôle, ce rôle de diriger le clan d'Israël.
Ça évoque quand même un peu aussi les élèves de Rabbi Akiva, quelque part.
Oui, non, mais les élèves de Rabbi Akiva, c'était les gens très très grands, etc. Mais ce n'est pas Nadav et Abihu. Nadav et Abihu, c'est.
Mais donc, c'est en plus pour je dirais, quelque part, considérer que c'est un travers.
Ouais, c'est ce que je vous dis, ça. Je ne sais pas répondre à la question.
Mais c'est un
travers
masculin qui est.
Masculin.
C'est pas la première fois qu'on a cette problématique avec les grands de la Torah. Yéroboam aussi.
Qui? Qui ça? Il y en a un qui s'appelle Yéroboam, mais.
Yéroboam qui a dit Hachem, si je ne suis pas moi, non.
Ah oui, non, mais là-bas, c'était pas la même chose. C'était pas.
C'était considéré comme un.
Non, mais là-bas. Bien sûr, monsieur. Bon, là-bas, son problème, c'est tu me demandes de m'écraser dans l'Olamazé si, dans l'Olamaba, je peux le faire si, dans l'Olamaba, ce serait moi qui serais en tête. Alors, je le laisse être en tête dans l'Olamazé, et lui sera en tête dans l'Olamazé, et moi dans l'Olamaba, c'est ce qu'il a demandé. C'est pas du tout exactement la même chose. Tu lui demandes un truc, tel que c'était présenté chez Yéroboam, c'est. On lui demande quelque chose d'assez énorme. C'est juste qu'il aurait dû avoir confiance en Hachem, mais on lui demande quand même de laisser partir tous les hommes de son royaume, trois fois par an, aller à Yerushalayim, et ils ne peuvent pas aller au Beth Amikdash. Juste à côté du Beth Amikdash, il y a le palais de Rochovam, son ennemi. Ils sont bien obligés de faire allégeance à Rochovam aussi. Donc il dit, moi, tu me demandes de m'écraser devant Rehovam, c'est-à-dire devant le descendant de David, d'accord, je le fais si tu me dis que, bon, que tu prends sur toi aujourd'hui parce que demain ça ira mieux. Mais si même demain ça n'ira pas mieux, j'y arrive pas. C'est pas du tout la même chose.
C'est pas la même chose, c'est parce qu'il y a une négociation.
C'est pas la même chose. Alors voilà, alors Hachem lui dit, il dit un. Ah, Moshe Rabbeinu. Voilà, Vani, donc c'est verset Yudbet du chapitre 3. 3:12 maintenant. Vani, iné la karti et alvim mitor bne Israël. J'ai pris les bne Israël, les alvim du sein des bne Israël et je les prends à la place de kol becho, peter rechem. Ibn Israël. Vayuli alvi. Kili kol bechor, biyom akoti kol bechor beatz Israël, ikdashti li kol bechor, bi Israël, me adam ve adbeima, li yu an yashem. Qu'est-ce qu'il lui dit là? Il dit la chose suivante. Il dit, comme vous savez probablement que les prêtres, avant Matan Torah, avant le Vaudor, si vous préférez, c'était les Bechorot, c'était les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'ils m'appartiennent plus particulièrement, dit Hachem. Parce que je les ai sauvés lorsque j'ai frappé les Égyptiens et que leurs premiers-nés sont morts. Eux, ils étaient aussi en danger, je les ai sauvés, donc ils m'appartiennent, les Bechorot. Seulement quoi? Les Bechorot se sont disqualifiés au Vaudor. Il y a une halakha qu'un Kohen qui a fait Avodah Zara, même s'il fait Tshuva, il ne peut plus fonctionner au Beth Amikdash. Et donc, eux, ayant fait Avodah Zara, le Vaudor, ils ne peuvent plus fonctionner. Alors Hachem dit, on va échanger. Je vais échanger un Bechor que je reprends, que je le redonne au clan Israël, mais je prends du sein du clan Israël un Lévi. Le coup serait génial si on avait le même nombre de Prorot que de Lévim. Mais le problème, c'est qu'il y en a 273 en trop. Il n'y a pas assez de Lévim. Alors, ce que Hachem va faire, alors, il dit ici, donc on fait de nouveau le décompte des Lévim, etc. Hachem dit à Moshe, au verset 40 du chapitre 3, lui dit, Kod kol bechor zachar libne Israël, mi ben chodesh vamala, ça et mispar shmotam. C'est-à-dire, tu vas regarder tous les prorotes à partir d'un mois, de l'âge d'un mois, et tu vas calculer combien ils sont. Ve la carta talvim li, et tu prendras les Lévim pour moi, Ani Hachem, Tachat kol bechor bimne Israël, en lieu et place de tous les premiers-nés. On fera la même chose avec les, dans le monde animal aussi. Les bêtes des Lévim vont être prises par Hachem, si on peut parler comme ça, en lieu et place de celles des premiers-nés. Des premiers-nés dans les bêtes premiers-nés. Moshe a fait ce qu'Hachem lui a dit. Seulement, le problème, c'est, comme je vous ai dit, hein, il y avait 273 Bechorot en trop. Ça, c'est ce qui est écrit au verset 46. Et alors, ça, on les a rachetés avec de l'argent. C'est-à-dire, on a donné au Lévim un certain montant par premier-né. Il se trouve que ce montant, c'est le même montant que celui qu'on utilise dans Pidyon Haben. C'est 5 shekels. Donc c'est la même chose que ce qu'on fait dans Pidyon Haben. Donc on a donné cet argent aux Lévim, puisque les prorotes devaient se racheter en quelque sorte. Et donc c'est dans la caisse commune des Lévim, pour leurs frais et tout, ils ont l'argent des 5 shekels par personne, pour remplacer les 273 Bechorot qu'il y avait en trop. Voilà, c'est essentiellement le contenu de cette paracha de Bamidbar. Il y a une question qu'on peut se poser. Quand les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, Comme vous savez, on va partager Eretz Israël en fonction des tribus, des familles, etc. Mais on va dire que ceux qui, par exemple, ceux qui font du business, ils font des affaires avec les bateaux, etc., comme Zvouloun, on va leur donner un territoire avec du littoral, avec des ports, pour qu'ils puissent faire le travail. On ne va pas les mettre à Yerushalayim, il n'y aura pas d'eau là-bas, comment ils vont faire leur business. Donc, je ne sais pas, à la limite, d'où est-ce qu'on sait que ces gens-là ont la bosse du business. Ils veulent, ça serait bien qu'ils soient au bord de l'eau. Après coup, on comprend, ceux qui ont été au bord de l'eau, ils ont développé un savoir-faire, etc. Et bon. Mais visiblement, ils devaient avoir des qualités. Et Akadosh Baruch Hu a jugé que les qualités qu'ils avaient étaient les mêmes qualités que ce qu'il faut pour les gens qui vont faire du business maritime, disons. Les gens qui préfèrent le côté montagne, le côté plaine, etc. Donc les Bnei Israël vont s'installer en Eretz Israël en fonction de leur spécificité.
Il y avait une histoire de sable.
Pardon ?
Il y avait une histoire de sable qui servait à faire
du verre. Oui, bon, il va y avoir. Ben oui, c'est la silice, c'est sûr. Alors, ce qui va se passer, ce qui se passe et qui est problématique, si vous voulez, ce que je n'arrive pas vraiment bien à comprendre. Les Bnei Israël sont dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien dans la topographie qui dise quoi que ce soit. C'est, donc, disons, je sais bien qu'il y a des dunes, etc. Mais il y a, voilà, on peut voir ça comme un plan. Alors eux, ils s'installent dans le plan Israël, dans ce plan, ils s'organisent. Il y a une structure du plan Israël qui est donnée au plan Israël par le fait que il y a Yehuda à l'est, et Reuven au sud, et Ephraim à l'ouest, et Dan au nord, et chacun avec ce qu'il est, etc. Donc ça, c'est une structure du clan Israël. Cette structure, on sait d'où elle vient, parce que c'est la même structure que celle qu'il y avait autour du lit de mort de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu convoque ses fils à la fin de sa vie, ils se mettent autour de son lit et ils sont comme ça, 4 fois 3, exactement comme c'est écrit ici. Donc c'est une structure, on peut dire, qui a quelque chose d'ancien, fait référence à l'ancien. Ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est cette structure, elle est décrite largement dans la Torah. Ici, on nous dit comment on fait quand ils vont bouger, etc. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça nous sert? On ne sera plus jamais dans cette situation-là. Eretz Israël a déjà été partagée. À supposer qu'on retrouve une structure tribale, ben voilà, si c'était comme ça, dès le moment où on est entré en Eretz Israël, cette structure n'avait plus lieu d'être. Il y avait une autre structure qui était donné par la topographie du pays. Oui.
La répartition sur Israël n'a rien à voir avec la. Enfin, je veux dire, quand on est là, on parlait de temps pour les 80 millions. Est-ce qu'on ne retrouve pas tout ça dans la répartition des tribus sur.
Pas du tout. Seulement pas.